VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 19 mai 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Claire Morin-Gibourg.
Nous commençons par les titres.
Une quinzaine d'assaillants ont été tués par des militaires togolais la semaine dernière lors de l'attaque contre un poste militaire dans le nord du Togo.
Une délégation d'experts de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest est depuis mardi au Burkina Faso pour évaluer la situation sécuritaire dans le pays.
Le Conseil de sécurité de l'ONU juge regrettable la décision du Mali de quitter le G5 Sahel.
La nouvelle représentante spéciale de l'ONU en Centrafrique veut réajuster la MINUSCA pour mieux protéger les civils.
Le président américain Joe Biden entame à partir d'aujourd'hui son premier voyage en Asie depuis son arrivée à la Maison-Blanche.
Ne manquez pas notre page sport et la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Une quinzaine d'assaillants ont été tués par des militaires togolais lors d'une attaque perpétrée la semaine dernière dans le nord du Togo, au cours de laquelle 8 soldats ont été tués et 13 blessés, a annoncé hier soir à la télévision le ministre de la Sécurité, le général Dame Yark, citant des sources bien informées.
Cette attaque a été perpétrée par une soixantaine d'hommes armés circulant à moto contre un poste militaire à Pinkankandi, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Selon le gouvernement, il s'agit de la première attaque terroriste meurtrière au Togo, où l'armée est déployée dans le nord pour faire face à la menace d'un débordement de la violence des groupes djihadistes présents au Burkina Faso voisin.
Le Togo n'avait enregistré qu'une seule attaque en novembre 2021. Une récente série de raids frontaliers dans les pays situés au sud du Sahel a confirmé les craintes que des groupes djihadistes de la région cherchent à progresser vers la côte.
Une délégation d'experts de la CEDEAO est depuis mardi à Ouagadougou pour évaluer la situation sécuritaire au Burkina Faso à la demande du gouvernement burkinabé. Plus de précisions avec Mohamed Humfa.
Cette délégation de 16 membres est conduite par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères et le président de la commission de la CEDEAO. Elle est composée d'experts dans le domaine militaire et sécuritaire, humanitaire et politique, a précisé Lionel Bilgo-Bilgo, porte-parole du gouvernement burkinabé. Nous espérons pouvoir apporter aux experts de la CEDEAO l'ensemble des éléments nécessaires à leur appréciation de la situation nationale, a-t-il ajouté. Le Burkina Faso est suspendu des instances de la CEDEAO depuis le coup d'État qui a porté au pouvoir le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. La junte a fixé à 3 ans la période de transition avant la tenue d'élections, mais la CEDEAO souhaite que cette durée soit revue à la baisse. Elle avait demandé fin mars au Burkina de donner un nouveau calendrier raisonnable de la transition d'ici le 25 avril, mais Ouagadougou avait demandé un délai supplémentaire. La junte avait aussi demandé l'envoi d'une mission de la CEDEAO pour évaluer la situation nationale avant de se prononcer sur sa demande d'écourter la période de transition.
Le Conseil de sécurité de l'ONU juge regrettable la décision du Mali de quitter le G5 Sahel. Le Niger considère déjà que cette instance régionale est morte. Nanit Talani.
Depuis sa création, le G5 Sahel a mené le bon combat sur ses deux fronts, la lutte contre le terrorisme et le développement socio-économique de la région. Malgré la dégradation de la situation sécuritaire, la force a connu des succès dans ses opérations conjointes, a fait savoir hier mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU son secrétaire exécutif Eric Thiari. Il réclame à l'ONU de s'impliquer davantage dans le soutien au G5 Sahel. Dans un entretien aux médias français publié mercredi, le président nigérien Mohamed Bazoum a estimé qu'après le retrait du Mali, le G5 Sahel est mort. Depuis le second coup d'État au Mali, Bamako est dans une fuite en avant qui l'isole et nous prive d'une stratégie concertée et coordonnée pour lutter contre le terrorisme, a-t-il souligné. L'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, appelle à ne pas tirer de conclusions hâtives sur l'avenir du groupe. L'ambassadrice adjointe de la Russie à l'ONU, Anna Evstigena, demande à ce que ce qui reste de ce groupe anti-djihadiste au Sahel de garantir une ligne autonome de son action, son dictat extérieur. La junte au pouvoir au Mali a annoncé dimanche quitter le G5 Sahel en l'accusant d'être instrumentalisée par l'extérieur. Créée en 2014, cette organisation est dotée d'une force de 5000 militaires, mais a toujours souffert de manque d'argent pour financer ses opérations.
La nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique demande un réajustement de la force de l'ONU pour protéger les civils. Pour Valentine Rogoa-Biza, les populations sont victimes d'exactions de toutes les parties du conflit dans le pays, Abdourahmane Dia.
La nouvelle patronne de la force onusienne en Centrafrique a dit lors de sa première conférence de presse que l'essentiel est d'adopter une posture proactive et préventive d'exactions sur les populations civiles sur la base d'informations fiables. Valentine Rugwabiza a indiqué que toutes les parties impliquées dans le conflit commettent des exactions sur les populations. La nouvelle représentante a également mis l'accent sur la situation humanitaire préoccupante, indiquant que le plan de réponse humanitaire de 2022, estimé à 461 millions de dollars, a plus que jamais besoin d'être financé, car seuls 22% des fonds nécessaires ont été mis à disposition à ce jour. La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, et plusieurs groupes d'experts de l'ONU ont dénoncé de graves violations des droits de l'homme sur les civils commises par les groupes rebelles, mais aussi par les forces armées du régime et leurs alliés russes. La mission des Nations Unies en Centrafrique a été déployée en avril 2014 pour tenter de mettre fin à la sanglante guerre civile déclenchée en 2013 après un coup d'État contre le président François Bozizé. Elle dispose d'environ 14 000 casques bleus chargés en priorité de protéger les civils.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ambassade des États-Unis a rouvert à Kiev alors que la Russie affirme que 959 soldats ukrainiens se sont rendus à Mariupol. La Turquie maintient son opposition à la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Ginny Kapumbuvila.
Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a annoncé hier la réouverture de l'ambassade des États-Unis à Kiev. Les États-Unis avaient décidé de déplacer leur ambassade en Ukraine de Kiev 10 jours avant le début de l'invasion russe. La Russie affirme que 959 soldats ukrainiens, dont 80 blessés, se sont rendus au complexe sidérurgique d'Azovstal à Mariupol. La Finlande et la Suède ont soumis mercredi leur demande d'adhésion à l'OTAN. Le président Joe Biden dit leur assurer son soutien total, mais la Turquie, membre de l'Alliance, s'y oppose et force l'Alliance à des consultations pour lever son veto. Ankara accuse la Suède d'être le nid d'organisations terroristes comme le PPK kurde et reproche aux deux pays nordiques de ne pas approuver les demandes d'extradition de personnes accusées d'être des terroristes et d'avoir gelé des exportations d'armes vers la Turquie.
Une enveloppe de 12 milliards de dollars de la Banque mondiale et un appel de l'ONU a débloqué les exportations ukrainiennes de céréales. La communauté internationale redouble d'efforts pour lutter contre la crise alimentaire qui s'est encore aggravée depuis l'invasion russe de l'Ukraine.
Lors d'une réunion ministérielle organisée à New York par les États-Unis, Antonio Guterres a parallèlement plaidé pour un accès sans restriction de la nourriture et des engrais russes aux marchés mondiaux.
Le président américain Joe Biden entame ce jeudi son premier voyage en Asie depuis le début de sa présidence. Il se rendra en Corée du Sud, puis au Japon. M. Biden va participer à Tokyo à une réunion du Quad qui rassemble les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie et qui se veut en contrepoids face à l'influence de la Chine.
En bref, le président américain Joe Biden a annoncé hier la mise en place d'un pont aérien et le recours à une loi datant de la guerre froide pour tenter de résoudre la pénurie de lait pour bébés aux États-Unis, devenue un casse-tête politique pour son administration.
Plusieurs dizaines de cas suspects ou confirmés de variole du singe ont été détectés depuis le début du mois de mai en Europe et en Amérique du Nord, laissant craindre un début de propagation de cette maladie endémique en Afrique de l'Ouest. Le premier individu infecté au Royaume-Uni avait récemment voyagé au Nigeria. La Minute Éco, Rosine Mounezero.
Au Togo, pour la saison agricole 2022-2023, le sac d'engrais de 50 kg est vendu aux producteurs avec une hausse de 44%. Malgré une subvention de l'État, ce prix pourrait être très élevé pour les agriculteurs. Le gouvernement évoque la conjoncture internationale pour justifier la fixation du prix de l'engrais. Le Togo produit du phosphate, le vend à l'étranger et importe ses fertilisants. Pour la première fois dans l'histoire, la demande annuelle de cobalt provenant de l'industrie des véhicules électriques a dépassé de 34% celle des autres secteurs en 2021. Dans son rapport, le Cobalt Institute affirme que cette tendance va se poursuivre dans les années à venir, portant le chiffre à plus de 50% d'ici 2026. Au moment où la transition énergétique va renforcer cette situation grâce à la croissance des ventes de voitures électriques, les pays producteurs comme la RDC ont donc une carte à jouer. La Commission européenne a présenté mercredi un plan à 210 milliards d'euros qui prévoit une accélération des énergies renouvelables et des économies d'énergie pour s'affranchir le plus vite possible des importations de gaz russe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, affirme que l'Europe doit réduire le plus vite possible sa tendance énergétique à l'égard de la Russie.
Merci Rosine. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cette affaire qui se poursuit, la Fédération française de football a demandé hier des explications à Idrissa Ganagay.
Oui, le Conseil de l'éthique de l'instance nationale du football français demande au joueur sénégalais du PSG de dire s'il a refusé ou non de participer à une opération contre l'homophobie. Idrissa Ganagay doit clarifier sa situation, soit dire que les supputations sont infondées, soit faire amende honorable pour avoir refusé de porter un maillot floqué des couleurs arc-en-ciel à l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie, selon le courrier adressé aux joueurs révélé par l'équipe. Dans son pays, le Sénégal, Ganagay bénéficie d'un soutien total. Dans un tweet, le président Macky Sall a appelé au respect de ses convictions religieuses.
C'est désormais officiel, joueurs et joueuses de l'équipe nationale américaine de football recevront le même salaire.
La Fédération américaine de football a conclu un accord qualifié d'historique et de premier du genre avec les associations de joueurs et joueuses de ces sélections. Cet accord formalise des salaires égaux entre l'équipe féminine et l'équipe masculine selon les deux conventions collectives qui courront jusqu'en 2028. Cindy Parlow-Cohn est la présidente de la Fédération américaine de football.
Dans le contrat, comme vous le savez tous, nous avons des conditions financières identiques, des primes de match identiques, une égalité des retombées de la Coupe du Monde par tirage au sort, puis des accords commerciaux et de partage de revenus identiques. Et puis en plus, l'équipe féminine bénéficie d'une couverture santé, de la garde d'enfants, tant pour les hommes que pour les femmes.
Cindy Parlow-Cohn, présidente de la Fédération américaine de football. Cette annonce intervient quelques mois après celle d'un premier accord préliminaire de la Fédération avec un groupe de joueuses dont la star Megan Rapinoe qui avait entamé des poursuites contre l'instance en 2019. L'accord devra être approuvé par un tribunal pour mettre fin aux poursuites. Avec 4 titres en Coupe du Monde et autant de médailles d'or aux Jeux Olympiques, le palmarès de l'équipe nationale féminine américaine est plus étoffé que celui de son homologue masculine, qui n'a jamais fait mieux qu'une troisième place en 1930.
En cyclisme, c'est une belle aventure qui s'achève tristement. Binyam Girmay abandonne le Giro.
Au lendemain de sa victoire lors de la 10e étape du Tour cycliste d'Italie, mardi, l'Érythréen quitte la compétition en raison de sa blessure à l'œil gauche. Le jeune cycliste de 22 ans a malencontreusement reçu dans l'œil le bouchon de la bouteille géante qu'il devait ouvrir sur le podium protocolaire. L'entourage de son équipe belge indique que le choix d'abandonner la course a été pris par prudence. Girmay est devenu mardi le premier coureur noir d'Afrique, vainqueur d'une étape de Grand Tour. Il participait pour la première fois de sa carrière au Giro. professionnel depuis 2020. Il compte 8 victoires à son palmarès, dont 3 cette année. Fin mars, il est devenu le premier Africain vainqueur d'une classique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, les dernières heures ont été animées par le rejet de la liste départementale de Yewi Askanu, la principale coalition d'opposition, et le nouveau report du verdict au procès en appel du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, dans le dossier de la mort de Ndiaga Diouf. Les Sénégalais, principaux spectateurs de ces remous politiques, se prononcent. De Dakar, notre correspondant Sédina Abagué.
Hier, mercredi, le verdict du procès en appel de l'actuel maire de Dakar a été renvoyé au 21 septembre 2022, soit plusieurs semaines après les élections législatives prévues ce 31 juillet. Pour les Sénégalais comme Baïfal, cette affaire devait être vidée depuis longtemps.
À mon avis, on ne devrait pas le poursuivre pour une affaire qui dure depuis plus de 10 ans, alors que le dossier n'avance vraiment pas. Pour moi, il se protégeait, donc on devrait classer ce dossier sans suite.
Au-delà de son procès, Barthélémy Diaz est également le principal protagoniste dans l'affaire de la liste départementale de la coalition d'opposition. Il y a eu Askanoui, rejeté pour non-respect de la parité homme-femme. Mbaye estime que les autorités ne doivent pas faire de deux poids, deux mesures.
Pour moi, le rejet de la liste de la coalition Yewi Askanoui n'est pas justifié parce que même Benno Bokyakar, le parti au pouvoir, n'a pas respecté les règles. Il y avait un surnombre dans leur liste de parrainage et pourtant, ils sont toujours en course. Donc, si on rejette la liste de Yewi Askanoui, la liste de la coalition au pouvoir ne devrait pas participer aux élections.
Même son de cloche du côté de Salifou Dabo, pour lui, si la liste départementale de la coalition d'opposition Yewi Askanoui est en faute, son leader doit l'assumer.
En tant qu'honnête citoyen, si normalement le dossier de Barthélémy n'est pas... C'est irrégulier. Normalement, son dossier doit être rejeté.
La confiance entre l'État et le peuple est rompue. C'est pour cela que toute action des autorités attire la méfiance des Sénégalais. C'est du moins l'avis de Babacar Sy, un citoyen qui regrette cette situation.
À cet instant, la tournure politique du pays est très compliquée. Le parti au pouvoir attaque l'opposition et cette situation est vue à chaque fois comme un complot. Et c'est vérifiable dans la mesure où beaucoup de dossiers laissent penser cela. On peut prendre en exemple le dossier Khalifa Sall où le jugement a été très contesté. Mais je ne vais pas entrer dans le fond du dossier parce que je ne le maîtrise pas trop. En tout cas, nous, on espère que tout va se passer dans les meilleures conditions, car c'est le Sénégal qui gagne.
Rejet, recours, pression et tension sont les maîtres mots du champ politique actuellement. Même s'ils sont de différents bords, les Sénégalais veulent que les hommes politiques règlent leurs différends et aillent aux législatives sans mettre le feu au pays. Sédina Abagué pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Niger, les enquêtes sur la mort de 3 jeunes en novembre 2021 lors du passage d'un convoi de l'armée française à Téra dans l'ouest du pays n'ont pas été concluantes selon le gouvernement. Le pays décide d'indemniser les familles des victimes et les blessés à part égale avec la France. Une décision qui n'est pas du tout du goût des défenseurs des droits de l'homme. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa en a interrogé quelques-uns.
C'est l'indignation chez la plupart des défenseurs des droits de l'homme qui ont fait de ce dossier une de leurs préoccupations ces derniers mois. Abdoulaye Seydou, président de la section nigérienne du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, REPAD.
C'est une posture véritablement irresponsable. Cela révèle tout simplement du mépris vis-à-vis de la population. Et donc, vous voyez, quand on parle de ce genre d'actes aussi inqualifiables,
Comment peut-on espérer un temps soit peu que le Nigérien puisse faire confiance à l'État dans son approche de collaboration avec la France par rapport à la lutte contre l'insécurité? Avec d'autres organisations, nous allons continuer à apporter notre soutien de manière à ce que tôt ou tard, les lumières de justice soient faites par rapport à ces questions. Et ici au Niger et en France.
Michael Zodi, du mouvement Tournons la page Niger, est aussi remonté contre cette issue à laquelle le gouvernement est parvenu dans ce dossier.
Je suis déçu par rapport à ce communiqué-là. Je suis déçu de l'attitude du gouvernement. C'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre cette attitude-là. Comme si, aujourd'hui, ils étaient partis pour corrompre. Parce qu'il faut utiliser les termes, les familles, pour leur donner quelques sous pour que la situation se calme. Eh bien alors, nous demandons justice, nous continuons à demander justice. Ça veut dire que notre gouvernement est en train de prendre cause et effet pour l'envahisseur. Parce qu'aujourd'hui, cette force Barkhane n'a pas raison d'être sur notre territoire.
Au niveau du comité des ressortissants de la région de Tillabéri, comité mis en place pour exiger du gouvernement, entre autres, une meilleure prise en charge de la question sécuritaire dans la région, l'on ne compte également pas se satisfaire de cette indemnisation. Amadou Harouna Maïga, président du dit comité.
Notre comité ne va pas croiser les bras. Et cette indemnisation-là, ça ne va pas nous distraire, ça ne va pas empêcher la voie judiciaire. Il faut que les gens comprennent bien. D'autre façon, nous savons tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas dans les règles, mais c'est des passages en force, parce que lorsqu'on a la force, on peut arriver à ses fins.
Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir du G5 Sahel après la sortie du Mali. Les autorités de transition mettent en cause une instrumentalisation par un État extra-régional empêchant le Mali d'assurer la présidence tournante du G5. Cette organisation régionale de lutte contre le terrorisme était déjà confrontée à de sérieux problèmes opérationnels et de financement. Le G5 Sahel pourra-t-il survivre après le départ du Mali ? Quelle approche de coopération dans la lutte contre le terrorisme au Sahel? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
La COP15 se poursuit en Côte d'Ivoire. L'accès des femmes à la terre a été évoqué à cette convention et une tribune spéciale dédiée au caucus genre a fait l'objet de réflexions sur l'acquisition difficile de la terre par les femmes en Afrique et dans le monde. Un dossier de Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
Les traditions ont vraiment la peau dure. Selon les Nations Unies, les femmes représentent la moitié de la main-d'œuvre en Afrique subsaharienne, mais ne détiennent que 18% des titres fonciers. Les pesanteurs socio-culturelles et autres préjugés du droit coutumier ont contribué au fil des ans à la marginalisation des femmes. Suzanne Kouamé-Séry, spécialiste en genre à l'Agence foncière rurale.
Selon nos traditions, la femme est appelée à quitter sa famille d'origine pour aller se marier. Donc, lui donner une parcelle de terre dans sa famille d'origine revient à extraire cette parcelle de terre à la mairie parce qu'on estime que si elle a accès à la terre, c'est son mari qui va en bénéficier.
Difficile accès des femmes à la terre et les hommes dominent le milieu agricole. Madame Poua Clarisse, agricultrice, témoigne.
Cette affaire de foncier rural, là, nous les femmes, ça nous crée énormément de problèmes. Hein. Les gens donnent la priorité aux hommes alors que nous aussi, on peut valablement les mettre en valeur. Donc vraiment, c'est une véritable souci pour nous les femmes.
Dans la plupart des cas, les femmes ne possèdent pas les terres qu'elles mettent en valeur. Un autre témoignage avec Madame Aline Netrou.
La place là, il n'est pas acheté. Donc nous avons vu la forêt, nous l'avons nettoyée. Nous avons parlé au chef du village, nous avons donné la place pour planter le riz.
L'ex-vice-ministre des Affaires étrangères du Costa Rica a été clair. Le Renard Angel.
Il est temps maintenant que nous nous rendions compte que la même vérité s'applique à la femme. Il faut changer les narratifs. Les femmes et les jeunes femmes sont les agents du changement.
Et les lignes ont timidement commencé à bouger. Le patriarche Jean Amondi, chef des terres dans le village d'Adjamé-Bingerville, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Abidjan, assis sous un arbre entouré de ses notables, a tenu à faire cette déclaration traduite par l'un de ses conseillers.
Ici, nous avons des terres
Il ne faut pas seulement que ce soit les hommes qui en bénéficient. Il faut que les femmes aussi aient leur part. Donc, il va sensibiliser les femmes et les hommes également à ce niveau-là.
Dans le village d'Eloka, les responsables coutumiers cherchent aussi à lever les restrictions à l'accès à la terre pour les femmes. Le chef central, Christophe Gaumont.
Si les enfants sont égaux, ils disent la loi. Donc, s'il y a une fille qui est fille de son père qui est décédée, qu'il n'y a pas de garçon tel qui prend. Si les frères du père veulent prendre la plantation à la fille, en tout cas, nous, je dis non.
Pour Amina Mohamed, vice-secrétaire général des Nations Unies, il faut joindre le geste à la parole.
Nous savons que les femmes passent beaucoup de temps tous les jours à cultiver la terre et pourtant elles n'ont pas accès aux titres fonciers et aux financements. Et ce que nous devons permettre aux femmes de posséder la terre, cela va changer les choses.
Félicité Coutouin, directrice de l'entrepreneuriat féminin au ministère ivoirien de la famille, a conclu par ce message d'espoir.
Nous espérons que cette COP sera vraiment la clé qui va permettre de booster la question de l'autonomisation des femmes.
Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Togo, pour la sauvegarde du milieu naturel, des solutions innovantes sont promues à l'instar des foyers améliorés. Économes en énergie et faciles d'usage, ces foyers améliorés sont adaptés aux besoins des populations, notamment rurales, qui utilisent intensivement le bois de feu comme principale source d'énergie. Un reportage de notre correspondante Amen Assignon.
Pratique et simple d'utilisation, ce qu'on appelle un foyer amélioré, permet une cuisson rapide, un gain en énergie et surtout, il est économique. D'après Sylvie, une Togolaise vivant au Gabon.
C'est un foyer qui est vraiment adapté à nos situations économiques. Un foyer qui, en tout cas, qui nous va. Et ça ne salit pas. Je prépare dans la chambre, tu ne vas même pas voir la moindre cendre. C'est tellement propre, efficace, résistant.
Le modèle qu'elle utilise a la particularité de n'être alimenté que par des résidus de charbon recyclé. Son concepteur est le Togolais Edouard Akapolado. Dénommé Foyeco, son foyer amélioré est issu d'une technologie avancée, comme il l'explique.
Le Foyeco est équipé d'un ventilateur qui remplace l'éventail. Ce ventilateur est alimenté avec un chargeur de 12 watts ou un panneau solaire pour ceux qui sont en milieu rural.
Moins polluants à cause du peu de fumée qu'ils dégagent lors de la cuisson, les foyers améliorés contribuent à réduire la coupe de bois et la quantité des gaz émis lors de la cuisson, précisément ce qu'on appelle les polluants atmosphériques de courte durée. Ils sont de plus en plus recommandés en lieu et place des foyers traditionnels très gourmands en énergie et qui gaspille beaucoup de bois et de charbon, selon Fontodi Jérémy, spécialiste en bois, énergie et changement climatique.
Si vous prenez 100 kg de bois, l'énergie que vous tirez dedans, ça fait environ équivalent de 8 kg de bois. Ça veut dire que les 92 kilos restants sont gaspillés, sont perdus dans la nature. Il y a des foyers améliorés qui permettent de réduire jusqu'à 50% de la consommation du bois. Donc, une fois qu'on réduit la consommation du bois, on est en train de réduire la pression sur les ressources forestières. Ces ressources forestières vont capter le CO2 dans l'atmosphère pour réduire la disponibilité de ce gaz dans l'atmosphère, ce qui constitue un moyen énorme de lutte contre les changements climatiques.
Outre les foyers améliorés, il existe d'autres alternatives, comme l'explique Fontodi Jérémy.
Il y a le charbon écologique qu'on peut produire à partir des déchets, à partir des résidus agricoles et d'autres formes de déchets. On peut utiliser les déchets agricoles pour faire de la pyrolyse, c'est pour produire un peu de l'énergie qui sort sous forme de biogaz.
Efficace et surtout écolo, ces nouvelles approches ont le mérite de contribuer à la préservation des milieux naturels et de lutter contre le réchauffement climatique. Amen Assignon, Lomi pour la VOA.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidoudia et Claire Morin-Gibourg. À la mise en onde, Lionel Ronanira Gahima et à la console, John Walker. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.